Certaines nuits, néanmoins, les enfants pleuraient juste assez pour le réveiller. Et il se retrouvait allongé, le cœur battant, à se demander ce qui l'avait ramené au monde à une heure aussi inhabituelle. Cette nuit-là, la même impression lui revint. La plupart des autres nuits, Isaac dormait du sommeil du juste. C'était une créature du dernier tournant du siècle, un temps où le sommeil paraissait plus facile à trouver. Les choses étaient claires à ses yeux. Il était loyal, croyait à la dignité, à l'honneur et à l'effort. Il donnait des cours de catéchisme. Il payait rubis sur l'ongle, fait consigné dans un répertoire publié par la Giles Mercantile Agency et censé demeurer strictement confidentiel. Ce petit livret rouge, tenant dans une poche de gilet, contenait la liste de presque tous les citoyens bien établis de Galveston. Policiers, banquiers, serveurs, ecclésiastiques, buralistes, entrepreneurs, magnats et agents maritimes. Et les notait en fonction de leur solvabilité. Une évaluation fondée sur les informations secrètes fournies anonymement par des amis et ennemis. Un astérisque, à côté d'un nom, voulait dire « Attention, renseignez-vous à l'agence » et entachait ainsi la réputation fiscale de personnes comme Joe Amando, vendeur de tamal, Noah Allen, avocat, Ida Cherry, veuve, et Auguste Rolfing, peintre en bâtiment. Isaac Klein avait la note maximale, un B, signifiant « bon payeur, digne de foi ». En novembre 1893, 2 ans après l'arrivée d'Isaac à Galveston pour ouvrir l'antenne texane de l'US Weather Bureau, le jeune service météorologique des États-Unis, un inspecteur du gouvernement avait écrit de lui « Je suppose qu'il n'y a pas un membre du personnel de la station qui abatte plus de vrai travail que lui ». Il montre un degré remarquable d'intérêt pour son métier et est très fier d'avoir fait de sa station l'une des meilleures et des plus importantes du pays, ce qu'elle est aujourd'hui. En rencontrant Isaac, les gens le trouvaient modeste et effacé. Mais ceux qui étaient amenés à bien le connaître percevaient chez lui une dureté et une assurance qui confinaient à la suffisance. Un photographe de la Nouvelle-Orléans a su capter cet aspect sur un cliché tellement réussi qui témoigne d'une telle attention aux géométries de la composition et de la lumière qu'on dirait un portrait à l'huile. Le fond est noir. Le costume d'Isaac est noir. Sa chemise est couleur d'os blanchi. Au-dessus de sa moustache et de son bouc, il porte un chapeau de paille. Mais pas du type canotier. Un chapeau à large bord relevé qui fait penser à un peintre français ou un joueur de casino fluvial. Les ténèbres baignent la photographie. La visière du chapeau obscurcit le haut de son visage. Ses yeux luisent dans l'ombre. Plus remarquable encore est le positionnement minutieux de ses mains. La droite repose sur sa cuisse, serrant ce qui pourrait bien être une paire de gants. La gauche est en suspens, de telle sorte que le diamant qui orne son petit doigt brille avec l'intensité d'une étoile. Il y a un secret enchâssé dans cette photographie. Pour le moment néanmoins, contentons-nous de dire que le portrait d'Isaac suggère de la vanité, un homme conscient de sa valeur et de sa position, qui se voyait comme bien davantage qu'un simple rapporteur des précipitations et des températures. C'était un scientifique, pas un simple fermier capable de jauger le temps à venir en fonction des douleurs d'un genou arthritique. Isaac avait personnellement affronté et expliqué certains des plus étranges phénomènes atmosphériques qu'un météorologue puisse espérer connaître. Mais il avait aussi lu les travaux des météorologues et géographes physiques les plus illustres du XIXe siècle, des hommes tels que Henry Pennington, Matthew Fontaine Maury, William